pour investir, le déchiffrage.
Marc Templeman de Cashbee, merci d'être avec nous en direct ce matin. Bonjour Marc.
Bonjour.
Puis il y a Léa Lejeune de Plan Cash qui va nous rejoindre dans quelques instants. Peut-être, on le disait vraiment dans le sommaire de cette émission, le marché repart, le marché est soulagé, vos investissements ils vont reprendre de la valeur. C'est un moment crucial à gérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas prendre les trains en marche parce que sinon on risque de se fracasser la main sur la poignée de la porte. Je salue au passage Léa Lejeune qui est arrivée.
Léa Lejeune de Plan Cash, merci, désolée pour le retard.
Oui, bien entendu. Alors, je le disais, quand les marchés repartent, c'est peut-être le moment le plus compliqué à gérer parce qu'on va vouloir revenir sur tous les actifs qui ont beaucoup baissé ces dernières semaines. On va vouloir peut-être se positionner sur le pétrole, on va peut-être vouloir se positionner sur la défense. Oup, 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 oup. Attention, il y a encore beaucoup de volatilité. Comment faire? Quels sont les bons réflexes à adopter quand un train repart et qu'on est tenté de le prendre en marche, Marc?
Vous êtes en plein sur le sujet du market timing. Et nous, chez Cashbee, on pense que le market timing, c'est très complexe pour des professionnels. Et donc, quelque chose à ne pas recommander pour l'investisseur individuel qui est chez lui, derrière sa télé, et qui essaye de prendre justement des trains en marche. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple, et puis Léa en aura sûrement d'autres. Mais je vais parler de la défense. On pourrait se dire, tiens, la guerre a été déclenchée en Iran. C'est forcément un bon moment pour acheter des titres, des acteurs qui sont actifs dans la défense. Et sur le fond, vous auriez raison. Enfin, en quelques semaines, les États-Unis viennent d'envoyer 1000 Tomahawk sur l'Iran, alors que certains producteurs, le producteur des Tomahawk, c'est une boîte qui s'appelle RTX, en produit à peu près 20 par an, et à qui on va demander sans aucun doute de démultiplier ses efforts pour en livrer. Le problème, c'est que les grands acteurs de la défense américains, que sont Lockheed Martin, Northrop Grumman et RTX, ont tous perdu en bourse depuis le déclenchement de la guerre. On pourrait se dire, mais pourquoi? C'est pas logique. Et en fait, c'est parce que ces titres-là, les marchés agissent souvent par anticipation. Donc ces titres avaient déjà pris 50% en moyenne sur un an avant que les combats se déclenchent. Et ça arrive à un moment où les investisseurs se détournent et vont plutôt vers des valeurs refuges. Quand vous prenez un ETF qui joue l'aerospace et la défense, qui est l'ETF iShares Aerospace and Defense, il y a 1 milliard sur 15 qui se sont retirés pour aller se reporter sur l'énergie, sur les utilitaires. En outre, le fait que la demande va sans doute être gigantesque pour ces acteurs, et c'est pas que les acteurs américains, il y aura aussi CSG en Tchéquie, le Rheinmetall en Allemagne, évidemment Thales en France, qui vont sans doute bénéficier de commandes. C'est pas tant le sujet de la demande, le sujet il est dans la capacité de production. Et le marché commence à se rendre compte que malgré cette demande qui est probablement croissante et qui est déjà très forte dans le contexte d'un réarmement général dans le monde, eh bien, la capacité de production ne suit pas. Et donc, méfiance quand on essaye de prendre des trains en marche, les tendances de marché peuvent être contraires à ce que votre intuition vous dit. Et l'exemple que je viens de prendre, la défense le démontre assez bien.
Bon. Et Léa Lejeune, vous, votre truc, c'est gaffe au pétrole.
Gaffe au pétrole, mais je voulais juste préciser avant, et je crois que c'est le point commun entre le pétrole et l'armement, c'est que c'est deux choses qui sont pile dans le contexte géopolitique actuel.
Et puis pile sur des problématiques de très long terme. Donc on pourrait se dire...
Justement, de long terme, bien sûr. Mais là, c'est vraiment dans les choses de court terme. Et justement, c'est pour ça qu'on peut être attiré par ces objets brillants, on va dire. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout... ils sont pas du tout à leur prix moyen, habituel. Donc on n'est pas du tout dans une stratégie de long terme, justement, si on se lance dessus aujourd'hui, je pense. Moi, je pense qu'il faut se méfier beaucoup des investissements dans le pétrole en ce moment, parce que pour le coup, on est dans une situation bloquée. Déjà que le market timing, c'est très difficile. Alors en ce moment, en plus, avec le jeu de Trump au milieu, c'est complètement impossible. Et puis, je pense que les Français commencent à comprendre que certains grands groupes pétroliers font un petit peu n'importe quoi. Ils sont un peu... qu'on est tous dépendants, finalement, de certaines décisions d'entreprise. Je parle de Total hier qui a commencé à chuter en bourse. On pourrait se dire Total en ce moment est plutôt très bien placé. Mais entre la proposition de loi PS qui propose de taxer les super profits, entre la réponse de Patrick Pouyanné hier qui dit « Ah non, mais on fera pas ça, et si ça continue, on va enlever le plafonnement du pétrole.
Bah, » On pense peut pas avoir fromage et dessert. Hein,
oui, mais je pense aussi qu'il commence à y avoir un désamour des Français et des investisseurs. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a baissé hier, alors que, pour le rappeler dans le contexte hier, c'était une grosse annonce pour Total qui annonçait des nouveaux investissements avec Nvidia à Pau pour créer un super processeur, enfin voilà, pour mettre en place des infrastructures de long terme sur 100 millions d'euros, et alors qu'on aurait pu croire que ce serait en hausse. Je pense que le contexte géopolitique et la réponse politique de Patrick Pouyanné qui se met au milieu du game, qui joue presque comme un acteur politique, bah, ça joue négativement pour l'action.
Ouais, ça lui arrive régulièrement. De toute manière, à chaque fois qu'on remet en cause les bénéfices extraordinaires de Total, ils sont quand même...
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le bon moment pour réfléchir et regarder sur les autres alternatives énergétiques et se dire que c'est peut-être là-bas qu'il va falloir aller mettre des billes, parce qu'à long terme...
Sur les énergies nouvelles, sur
les énergies renouvelables ou le nucléaire, mais se dire qu'on est dans une on est dans un monde où on est dépendant d'une ressource principale qui est quand même capable aujourd'hui de mettre le monde en pause. Et donc, c'est peut-être le moment d'aller regarder autre chose. Oui, bien sûr, sur le solaire, il y a des ETF qui peuvent être intéressants. Je pensais au low carbone énergie de Amundi, Europe 100, qui peut être intéressant. Je pense aussi qu'on peut investir aujourd'hui en direct dans des entreprises comme du solaire ou de l'hydraulique via Enerfip, Lumo, qui appartient à la Société Générale maintenant. Mais je pense même à plus long terme, sur toutes les formes d'énergie alternatives.
Ouais, justement, ça peut être un point pivot, précisément, pour se diversifier. Bon, Total, ce qui n'a pas aidé aussi hier, c'est que les prix du pétrole ont largement décroché. Donc,
il y a aussi... oui, il y a aussi cela, bien sûr.
Mais effectivement, ils avaient un petit wording hier qui aurait pu tomber à un autre moment.
Qui est vraiment passé à la trappe.
C'est un peu inaperçu, malheureusement. On va parler maintenant du rebond des marchés émergents, Mark Templeman. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose depuis une grosse dizaine de jours, que ce soit dans tes pays, là, à cette antenne, ou même sur BFM Bourse, c'est savoir est-ce que c'est le moment de revenir sur les émergents. Et en se disant, attention, on arrive à un phénomène de concentration qui ressemble un peu à celui de la high-tech américaine, et pour cause, parce qu'en gros, dès qu'on parle des émergents, tout de suite, on va y inclure Taïwan et Séoul. Et Taïwan et Séoul, c'est TSMC, SK Hynix, enfin les grands des semi-conducteurs qui montent en ce moment parce qu'il y a des investissements autour de l'écosystème IA. Attention, si on se met maintenant sur les émergents, on risque peut-être de se prendre une vague inverse dans quelques mois à cause de ces quelques entreprises et cette grosse concentration.
Alors, le sujet des marchés émergents est un sujet fascinant, et je peux plaider les deux côtés de la médaille. Donc, on va commencer par le côté, oui, évidemment, qu'il faut s'y intéresser, et la réponse est parce que c'est une diversification géographique par définition. C'est-à-dire que les indices des marchés émergents, notamment le MSCI marché émergent, il concerne des sociétés cotées dans 24 pays différents, dont l'Argentine, le Brésil, l'Inde, et j'en passe. Et en l'occurrence, pour ceux qui auraient choisi ce type d'indice depuis le moment où l'Iran a été attaqué, ils auraient réalisé une performance, en tout cas sur papier, de 15%, ce qui dépasse le rebond de 10% qu'a réalisé le S&P 500 américain, par exemple. En revanche, maintenant, je passe de l'autre côté de la médaille. Il faut bien comprendre d'où vient cette performance. Et comme vous venez de le dire, cette performance, elle vient pour moitié, donc 50% des plus 15% qu'a fait l'indice au total, provient de la performance de trois fabricants de puces, que sont TSMC, Samsung et SK Hynix. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que l'indice MSCI marché émergent, aujourd'hui, 44%, c'est la Corée du Sud et Taïwan. Donc, il y a beau y avoir des représentants de 24 pays, dans les faits, c'est un risque assez exposé et assez concentré sur deux pays seulement, Corée du Sud et Taïwan. Et donc, le message est le suivant. Oui, les marchés émergents peuvent aider un investisseur à diversifier son portefeuille, aucun problème, tant que cet investisseur se rend bien compte qu'en achetant ou en s'exposant aux marchés émergents, dans les faits, il s'expose notamment à la Corée du Sud et au Taïwan, et notamment à la dynamique autour de l'IA. Mmh. Donc, quelqu'un qui a dans son portefeuille des titres qui jouent la thématique IA et le marché émergent, en fait, il a un risque concentré sur l'IA.
Bah oui, effectivement. Mais ça, c'était un tweet qui nous avait vraiment marqué ces dernières semaines. C'était un investisseur saoudien qui tweetait « Vous croyez investir dans l'IA, en fait, vous investissez dans le risque taïwanais. » On fait croui, et puis on se dit « Ah ben oui, en vrai, oui. »
Et l'inverse est également vrai. Hein. On pense investir en Taïwan, et en fait, on investit dans le risque IA.
Voilà, ben c'est ça. Ouais, non, ça marche dans les deux sens. On va parler d'LVMH, Léa. Il y a un truc qui est intéressant qui est en train de se marcher, de se passer. Il y a une forme de ménage dans les marques. On l'a vu, il y a un an et demi, deux ans, LVMH a revendu la marque, l'ancienne marque de son designer vedette, Virgil Abloh.
Ah, et c'était la marque Hermès aussi. Et ouais. C'était la marque Hermès aussi.
Ouais, aussi. Là, ils viennent d'annoncer se désengager de la marque de cosmétiques de Rihanna.
Oui, Fenty Beauty.
Voilà, Fenty. Marc Jacobs aussi, terminé. Oui. Il y a un petit ménage là. Est-ce que finalement LVMH n'est pas en train de se dédiversifier ? C'est-à-dire qu'on avait des très grosses marques, très luxueuses, mais aussi des marques un petit peu plus,
grand public,
dire,
tout à fait.
Luxe accessible, c'est comme ça qu'on dit.
Ah ouais, mais il y avait aussi grand public, il y a aussi Sephora, voilà. Même s'il il garde Sephora.
Est-ce qu'en gros, on est en marche vers peut-être une dédiversification d'LVMH?
Oui, je pense tout à fait. Et surtout, je trouve que c'est un petit peu triste, finalement, les annonces de Bernard Arnault et de LVMH. On était sur un groupe qui, depuis 15 ans, était vraiment donc, dans la diversification, mais aussi dans l'acquisition de différentes marques. Vraiment, on essaye de grossir, de capter les tendances Fenty Beauty de Rihanna. C'est pour capter à la fois les tendances chez les jeunes, mais aussi la diversité pour les peaux noires que n'avaient pas forcément les marques de luxe de LVMH et qui avait pensé à l'origine Rihanna. Bon, dans les marques dont ils veulent se séparer, il y a aussi Makeup Forever qui est par ailleurs plutôt grand public en marque de cosmétiques et même une marque de vin pas très connue pour nous les Français qui est une marque Joseph Fields Vineyards américaine. Donc ils sont vraiment dans cette idée où on arrête l'acquisition, on se resserre sur la base et surtout je crois qu'au-delà de la diversification, c'est la question de vraiment rester sur les produits sur lesquels il y a des marges forte en fait. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont le luxe et le très grand public. Toujours cette segmentation des marchés qu'on voit beaucoup dans les cosmétiques et dans la mode. Donc c'est ça qu'ils font, mais je trouve que c'est un peu, ça sonne un peu l'énergie du désespoir, parce qu'il faut penser quand même qu'en janvier 2025, 2025, oui, c'est bien ça, l'action valait 200 euros de plus, quoi. On est vraiment sur une chute très forte.
Et il y a deux, trois trucs qui se sont passés depuis, qui expliquent aussi la chose.
Voilà, oui, bien sûr. Mais en tout cas, je veux dire, sur la construction de la marque, sur la manière dont l'entreprise était gérée, c'est un bouleversement. Et hier, les annonces n'ont pas suffi à faire ce qu'attendaient les analystes, parce que l'analyse disait ça va repasser au-dessus des 475, c'est repasser dessus, c'est redescendu. Bref, ça n'a peut-être pas suffi à donner envie.
Ouais, mais finalement, est-ce que c'est pas ce qui attend l'ensemble du secteur du luxe, dans le sens où c'est ce qu'on attend aussi de Gucci. C'est fini la diversification, fini entre guillemets les trucs de rappeur. Maintenant, on veut le retour du vrai chic italien.
Deux choses. La situation Gucci versus LVMH, je pense que LVMH est un vendeur patient. Il y a très peu de dettes, ils ont beaucoup de capitaux, c'est un groupe qui est contrôlé et détenu en très grande partie par la famille Arnault. Ils ne feront pas des ventes à la casse, ils n'ont pas besoin de se désendetter. La situation financière n'a rien à voir avec celle de Gucci. Le second, c'est que même si je note effectivement la vente d'un certain nombre de marques dans la mode, et notamment dans tout ce qui est habillage et potentiellement fait, et également le maquillage, on en parle moins, mais ils font des acquisitions et ils continuent de croître dans ce qui s'appelle l'hospitality. Et je crois que peut-être aussi, le groupe LVMH a identifié que dans le luxe, la tendance n'est plus nécessairement par les clients, je parle de l'achat du énième sac Hermès, du 12e sac, je sais pas quoi.
L'expérience.
C'est l'expérience qui
vaut. Oui.
Et donc, autant se défaire de certaines marques qui vendent des choses pour réinvestir et capitaliser et faire croître les expériences, l'hospitalité, les hôtels de luxe, les yachts de luxe, les voyages en train de luxe, etc., etc.
Et je crois que ça pose la question du pricing aussi, parce que si on regarde sur les
viens dans le micro, Léa.
Pardon. je crois que ça dépend du pricing aussi, parce que dans les sacs de luxe et autres, en fait, ils ont augmenté les prix plus du double dans les 12 dernières années, alors que là, justement, dans l'hospitality, ils se rendent compte qu'ils peuvent continuer à augmenter les prix, qu'il y a encore un pricing à faire et à trouver.
Marc, on va terminer avec peut-être le professeur en chef en matière de placement financier, Warren Buffett, bien entendu, Berkshire Hathaway. Changement de règne dans la grande holding, mais aussi des leçons à retenir en matière de choix des valeurs. En matière de, je me souviens d'un Rothschild qui disait, je me suis enrichi parce que j'ai toujours vendu trop tôt. Finalement, Warren Buffett, c'est un peu la même leçon. C'est, je ne vais pas investir dans des trucs spectaculaires, glamour. Non, je vais investir dans ce qui... Moi, le premier truc auquel je pense quand je pense aux achats et aux investissements de Warren Buffett, c'est les chemins de fer. C'est ouais. SPX, c'est des vieux trucs tout à fait traditionnels. C'est de continuer envers et contre tout sur Apple alors qu'on a la hype IA qui est en train de monter en puissance. Non, c'est ça finalement Warren Buffett.
Alors oui, et surtout c'est ça aussi son successeur Greg Abel. Mmh. Greg Abel est peut-être un peu moins drôle aujourd'hui parce que Warren Buffett peut se permettre de se targuer d'un track record sur 60 ans qui est extraordinaire et donc on peut se permettre des blagues. Greg Abel est plus sérieux, mais dans le fond, il continue exactement la même stratégie. Il dit que pour le 14e trimestre successif, le groupe a réduit son portefeuille d'actions et que bien qu'il soit doté de 380 milliards de dollars de cash, pour lui, le moment n'est pas bon. Il ne voit toujours pas ce que eux aiment. Et qu'est-ce qu'ils aiment, eux ? Ben, c'est des entreprises exceptionnelles à des valorisations justes. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, ils estiment que les marchés sont pour eux trop hauts. Alors, ça ne veut pas dire qu'il recommande qu'un investisseur, encore une fois, individuel, chez lui, devant ses écrans, adopte la même stratégie qu'eux, c'est-à-dire de faire des énormes achats, des énormes paris, des énormes investissements sur quelques titres de temps en temps quand les conditions sont réunies pour eux qui sont experts en la matière. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent d'ailleurs actionnaires minoritaires, mais très grands minoritaires, d'Apple, d'American Express, de Bank of America et de Coca-Cola. Je sais que Warren Buffett, à l'époque où il était encore le dirigeant de cette merveilleuse entreprise, disait pour l'investisseur individuel, surtout acheter des fonds indiciels, suivez le marché et sur le très long terme, vous allez voir, vous allez bien vous en sortir. Parce que le métier d'être patient, d'analyser bilan sur bilan, de suivre des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'entreprises au quotidien pour rarement passer à l'action, et quand on passe à l'action, d'y aller pour taille, c'est réservé quand même à des entités très spécialisées, à des professionnels, et c'est pas nécessairement une stratégie qui s'avère payante pour l'épargnant individuel.
Léa, on prend modèle sur le roi des stock pickers.
Je voulais rajouter une chose aussi. Quand on regarde son portefeuille, le portefeuille de Berkshire Hathaway, on est quand même sur des marques très grand public qui ont une valeur forte.
Sur le quotidien des Américains,
des gens qui sont attachés à leur marque. Hein, je veux dire, quand on parle de sa banque, quand on parle de son Coca-Cola, quand on parle de son ordinateur MacBook.
Train qu'on prend tous les matins.
Voilà. Non, mais le train, c'est un petit peu moins fort sur la question de la marque parce que là, c'est vraiment l'attachement grand public à tout ça. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la petite déclaration qu'a fait Warren Buffett, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou cette semaine, où il dit mais les marchés, c'est plus du tout comme avant. Maintenant, c'est des paris casinos, c'est du trading, c'est plus du tout. Et on voit bien que la façon dont les investisseurs et même les jeunes investisseurs qui font du stock picking, la façon dont ils procèdent en essayant de timer le marché, c'est pas du tout la façon dont lui avait construit le début du portefeuille. Donc, je crois qu'il y a encore des leçons à prendre de ce grand monsieur et de son entreprise.
Eh bien, on va continuer à en tirer les enseignements. Léa Lejeune de Plan Cash, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Marc Templeman de CashBib.